D'être 18h au studio Kalangou et partout au Niger. Bienvenue au journal en français dans une présentation de Rafika Taher. Bonsoir chers auditeurs, à la une ce jeudi 5 novembre 2020, l'ambassadeur des États-Unis au Niger a organisé hier à son domicile une table ronde où il a réaffirmé le soutien du gouvernement américain pour des élections libres, justes et transparentes au Niger. Les détails avec l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Les conditions de libération des otages par les groupes armés au Sahel a fait l'objet d'un panel par les journalistes de la zone ce matin dans la capitale malienne. Nous y reviendrons en détail au cours de cette édition. Beaucoup de parents se demandent comment expliquer le coronavirus aux enfants. La réponse de la partie magazine. Les Américains étaient aux urnes mardi 3 novembre dernier pour la 59e élection présidentielle dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. À cette occasion, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger a organisé en début d'après-midi hier une table ronde dans sa résidence pour expliquer l'attachement du gouvernement américain pour l'organisation d'élections libres et transparentes au Niger. Propos de Eric Whitaker, recueilli par Mokhtar Hamadou.
Au Niger, nous pensons que toutes les parties doivent participer pacifiquement au processus démocratique. Nous croyons que le rôle de liberté civile dans une société libre est magnifié pendant les élections. Le gouvernement américain supporte le Niger dans ses élections libres, justes, transparentes et inclusives. C'est un moment important de l'histoire du Niger. La prochaine élection présidentielle marquera pour la première fois dans l'histoire du Niger un président démocratiquement élu qui passera une transition pacifiquement de l'autorité exécutive à son successeur aussi démocratiquement élu. L'ambassade et d'autres partenaires internationaux tels que les Nations Unies, avec enthousiasme, nous avons reçu la mise à jour régulière de la direction de la CENI qui a mené le processus d'inscription biométrique des électeurs.
Le studio Kalangou a réuni à Niamey ses correspondants de toutes les régions du Niger les 3 et 4 novembre pour leur présenter la nouvelle charte électorale du média. Les journalistes devront se conformer au texte pendant la période des élections générales prochaines pour exercer leurs activités. À cette présentation étaient présents 55 correspondants de Kalangou, dont certains d'entre eux s'expriment au micro de Zainabou Abdou.
Nous avons appris beaucoup de choses, notamment pour les élections prochaines, comment travailler dans nos différentes radios.
Nous avons évoqué par exemple en cette période électorale qui s'approche, comment les journalistes doivent se comporter pour éviter tout équivoque dans ce processus, comment les journalistes doivent choisir les mots appropriés et aussi veiller à ce que ces invités ne heurtent pas la sensibilité de leurs adversaires politiques pendant les débats.
Vraiment, j'ai beaucoup appris. J'ai jamais eu autant d'opportunités. Surtout que c'est ma première fois. La formation a été satisfaisante et très instructive.
Direction maintenant à Bamako, le Sahel et ses otages. C'est le thème d'un panel qui s'est ouvert ce matin à Bamako, la capitale malienne. Les journalistes de plusieurs pays du Sahel se sont retrouvés pour échanger sur la situation des prises d'otages par des groupes armés dans la zone. Des personnes qui ne libèrent que contre paiement d'une rançon. Mais faut-il payer ces rançons aux ravisseurs pour libérer ces otages? Isselmou Sahili, expert sur les questions du terrorisme au Sahel, répond au micro de notre confrère Ibrahim Manzo Diallo du journal Aïr Info.
À mon avis, on libère les otages par des opérations militaires spéciales ou on libère les otages par des négociations ou des concessions réciproques. Est-ce qu'il y a un bouton, on appuie, les otages sont libérés? Non, il n'y en a pas. Donc, à défaut de pouvoir les libérer par les armes, il faut essayer de les libérer par l'argent ou par autre chose, parce que n'oubliez pas que ces otages appartiennent à des groupes armés qui ont des prisonniers au niveau des prisons des États et que ces groupes armés considèrent que leurs prisonniers sont aussi des otages des gouvernements. Donc, voilà, je pense que la meilleure des choses, c'est de travailler à ne pas avoir avoir d'otages, mais quand on a des otages, il n'y a pas trois solutions. Il n'y a que négocier ou libérer par la force. Et libérer par la force a toujours montré ses limites dans la zone du Sahel. Ça rappelle des Germanos, les jeunes Français qui ont été pris au Niger, même le drame de la libération des otages français pris au Bénin en 2019. L'opération a coûté la vie à deux soldats d'élite de l'armée française. Voilà, il y a un prix à payer. Est-ce qu'il faut comparer entre ce prix à payer par la force et ce prix à payer pécuniairement?
Impact de la COVID-19 sur les relations sociales au Niger. C'est le thème de la 7e journée de l'étudiant en socio-anthropologie célébrée aujourd'hui à la Faculté des sciences humaines de Niamey. Le choix de ce thème a pour objectif d'attirer l'attention des autorités nigériennes sur les conséquences de cette pandémie, explique Issoufou Doudou Hamidou, le président du comité d'organisation. Il est au micro de Moussa Hassan.
Nous savons comment la COVID-19 a bouleversé le monde de manière générale, même les puissances qui ont vraiment un système sanitaire fiable. Et aussi vu les ravages que la COVID-19 avait en matière de morts au Niger, l'impact social, vous savez, pour éviter la propagation de la maladie, l'État du Niger a décidé d'instaurer certaines mesures, notamment les couvre-feux, les gestes barrières, limiter les déplacements. Du coup, les populations entre elles ne peuvent pas se visiter. Et aussi, sur les plans économiques, la COVID-19 a beaucoup impacté, puisque actuellement, il y a des entreprises qui sont en faillite. Et la maladie n'a pas encore fini. Nous avons décidé de faire le choix de cette thématique. C'est une prévention. Maintenant, mesurer les conséquences déjà et éviter ce genre de conséquences, que ce soit sur les plans sociaux, sur les plans économiques et sur les plans sanitaires.
Du côté du cursus scolaire, la rentrée scolaire 2020-2021 n'est pas effective à l'école NIA des jeunes aveugles du Niger pour accueillir les enfants non et malvoyants du Niger. Elle a été créée en 1979 et baptisée École Soli Abdraman en 2005. Pour les responsables, il est impératif que soient réunies d'abord les conditions de vie et d'études des élèves pour mieux prendre en charge les élèves dont la majorité vit en internat. Madame Ibrahim Rabi, la directrice de l'école Soli Abdraman, au micro de Habibou Garba.
Ici, les CI, on recrute les élèves de 7 ans à 12 ans. On est en train de recruter, même aujourd'hui, j'ai eu des élèves. Nos élèves, ils nous parviennent des régions du Niger. Donc la rentrée pour les élèves, comme c'est une école à système d'internat, il faut d'abord penser à la réouverture de l'internat. Même si on a les vivres, il nous faut avoir les condiments. Si un enfant est interné, il paye 20 000 francs l'année, toute l'année. Donc c'est étalé. Et si il fait l'externat, c'est-à-dire il vient, il passe la journée ici, à partir de 15h, il rentre chez lui, donc il donne 10 000 francs. Donc c'est avec cet argent-là que nous collectons pour pouvoir faire les condiments. Les matières, c'est comme l'école traditionnelle, à la différence c'est de l'écriture braille que nous enseignons à nos élèves, compris les mathématiques, les quatre opérations, sauf la géométrie, parce qu'étant déficient visuel, on ne peut pas tracer.
De la région de Tawa, pour éviter l'épisode de la hausse exagérée du prix du mil enregistré l'année dernière, les autorités de Birnin-Kwani ont sensibilisé la semaine dernière les agriculteurs pour une bonne gestion de leur récolte. Le maire de Birnin-Kwani, Soumaïla Ousmane, au micro d'Assoumane Moussa Arzika.
C'est un appel que nous voulons lancer à la population sur la gestion des récoltes. Tout le monde est conscient des difficultés rencontrées. L'année dernière, le sac du mil a coûté jusqu'à 30 000 francs CFA, alors que pendant des années, il n'a jamais dépassé 20 000 francs. Dieu merci, cette année, les récoltes ont été assez abondantes. Il est donc nécessaire que les gens gèrent bien ces récoltes. Je souhaite que cette rencontre se déroule dans de bonnes conditions et un bon retour à toutes les personnes de leurs localités respectives.
Restons toujours en région, maintenant dans le département de Baleyara, région de Tillabéri, où certaines espèces végétales sont en train de disparaître suite au ramassage de la paille. Pour lutter contre ce fléau, le directeur départemental de l'environnement attire l'attention de la population sur les conséquences de l'exploitation abusive de la paille et au respect de l'arrêt qui interdit cette pratique. Le capitaine Abdou Zakou, au micro de Seydi Abdou Winditan.
Il est interdit de ramasser de la paille pour le stocker. L'arrêté adopté en 2016 dans ce sens stipule que celui qui cultive de la paille et le ramasse pour le stocker sera jugé et puni par la loi. C'est un arrêté qui est toujours en vigueur. Ici, cette loi n'est pas assez vulgarisée. Mais dans des localités comme Zender, où il y a beaucoup d'aires de pâturage, dès que tu touches à la paille, quelqu'un te dénoncera. Parce qu'il est conscient que ce faisant, tu mets en danger leurs animaux. Car dès qu'on balaye un espace pour prendre la paille, l'herbe ne poussera plus là-dessus. Le texte autorise les populations à prendre juste la quantité nécessaire à leurs animaux. Aussi, si Dieu vous gratifie des bienfaits de la nature, ne pensez pas que ce sera éternel. Si tu ne prends pas soin de ces biens, ils s'épuiseront. Pensons donc à l'avenir.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
La pandémie du coronavirus qui circule depuis bientôt 9 mois au Niger suscite des inquiétudes et sème la panique chez certains parents. Beaucoup d'entre eux s'interrogent sur la manière d'expliquer la COVID-19 aux tout-petits, les risques qu'ils encourent et comment ils doivent se comporter pour l'éviter. Réponse dans ce reportage de Salamatou Kadri en magazine.
Aujourd'hui, la première inquiétude des parents reste la protection de leur progéniture contre la COVID-19, notamment les jeunes enfants. Que faire alors pour que ces petits comprennent sans trop les effrayer? Écoutons les explications du docteur Goni Alassane de la Direction de surveillance de la riposte aux épidémies.
Pour expliquer le risque de COVID aux enfants, il faut passer par des représentations graphiques, que ce soit effectivement le gestuel, aussi les sonores ou bien le jeu de rôle. Donc il faut prendre maintenant une scène, comprendre à l'enfant que lui-là, il est en train de toucher, et voilà celui qui touche, voilà comment il faut qu'il se présente, et voilà comment nous autres, là, on doit se comporter envers lui. Là, c'est en ce sens que l'image reste au sein de l'enfant. À chaque fois qu'il voit la situation, il va essayer de se rappeler et de pratiquer ce qui lui a été enseigné.
Cette mère de famille, elle a bien compris le message. Elle a sa propre technique pour sensibiliser ses deux enfants contre la maladie.
J'arrive à expliquer à mes enfants le coronavirus. On ne le voit pas parce qu'il est tout petit. Ce virus peut se trouver sur des objets que tu touches tous les jours, comme une poignée de porte, une balançoire ou un jouet. Et le tout petit me dit, « Maman, moi je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ?» Je les ai fait asseoir en cercle et j'amène du savon et de l'eau, mouchoir, poubelle et peinture. Je les explique que la peinture est le virus. Si tu le touches, tu es infecté. Et si tu touches quelqu'un, il est infecté aussi. Le plus jeune me dit, donc maman, je vais m'éloigner de toi. Et là, je serai pas malade. Et l'aîné me dit, maman, on nous a appris ça à l'école. C'est ce qu'on appelle la distinction sociale. On doit prendre une distance de 1 ou 2 mètres au moins. Et de là, notre cercle s'agrandit.
Vu que les enfants sont en apprentissage, ils assimilent facilement. Comme ces derniers que nous avons retrouvés dans leur famille.
Coronavirus, c'est une maladie dangereuse. La personne va vomir, tousser et contacter d'appeler le 15 vite, vite, ou sinon il contaminera.
Le coronavirus, c'est maux de tête, le nez qui coule et la fièvre. Il faut tousser ou éternuer dans le coude de vos mains. Mettez une distance d'au moins 1 mètre ou 20 de 2 mètres ou bien de 3 mètres. Mettez votre masque.
Selon les spécialistes, il suffit d'utiliser les termes appropriés pour faire comprendre les contours de la pandémie aux enfants et ils prendront soin d'eux-mêmes.
Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre, le forum de Studio Kalangou sur les enjeux de la participation des jeunes d'Agadez dans les prochaines élections locales. Et c'est avec notre correspondant Moussa Maman. Bonne réception. Studio
Kalangou. Tous les jours, écoutez les programmes du Studio Kalangou sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Studio Kalangu, au rythme du Niger.